Bien, ben, chers amis, nous allons poursuivre notre étude. Alors, il nous reste à réaliser une chose que je vous ai promise ce matin sur le chapitre 7. C'est cette durée, cette période de 1260 jours, 1260 jours années, voir comment nous la comprenons, et puis compléter avec le reste de l'étude du verset 25, et en particulier la manière dont cette petite corne s'y prend pour attaquer le peuple de Dieu. Regardons en détail ce verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette durée, sous différentes formes, un temps, des temps ou la moitié d'un temps, ou 1260 jours, ou comme dans l'Apocalypse, 42 mois, cette période est citée 7 fois dans la Bible. 2 fois dans le livre de Daniel, 5 fois dans l'Apocalypse. Et voici ces occurrences. Daniel 7, 25, que nous étudions, s'est repris à la fin de Daniel sous la forme de 3 temps et demi. Dans l'Apocalypse, vous avez 2 fois cette durée sous la forme de 42 mois et au verset suivant sous la forme de 1260 jours. Vous l'avez également 2 fois dans le chapitre 12, avec 1260 jours et 3 temps et demi, et encore une fois dans Apocalypse 13, 5, sous la forme de 42 mois. J'aimerais vous dire que très probablement, cette période recouvre en réalité deux réalités. Et je vous ai dit tout à l'heure que si le livre de Daniel nous permettait de voir l'action de la petite corne ou de cette force de la faim sous une forme globale, le livre de l'Apocalypse, lui, nous donnait deux indications d'activité pour cette entité. Une pendant le Moyen Âge, et puis une blessure mortelle qui intervient, et puis une deuxième période d'activité après la guérison de cette blessure mortelle. Et je crois qu'il y a effectivement, mais ça je vous en ai parlé avec l'Apocalypse, deux applications à cette durée. Une application pendant le Moyen Âge et une application à la fin des temps. Alors je vous ai mis là ce à quoi je pense que ça correspond. Apocalypse 13, il me semble que ça correspond à la fin. Les deux précédentes au chapitre 12 correspondent à la période du Moyen Âge qui nous est citée dans Daniel. Apocalypse 11, les deux occurrences me paraissent liées à la fin. Et puis, Daniel 12 me semble lié à la période de la fin, mais également peut-être à la période du Moyen Âge. Et puis, Daniel 7, à mon sens, nous parle des deux à la fois. Je n'insisterai pas sur cette durée, mais par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que la période qui correspond au Moyen Âge, dans Apocalypse 12, et qui est citée 2 fois, une fois au verset 6 et une fois au verset 14, nous permet de comprendre comment il faut comprendre ce un temps, des temps et la moitié d'un temps. En effet, vous avez deux versets, alors je reviendrai là-dessus, mais le verset 6, il est dit: la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Bien. Deuxième texte, quelques versets plus loin, pour nous dire la même chose, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et vous voyez que ces deux textes nous parlent absolument du même événement. Mais ils nous donnent ce même événement sous deux durées différentes. Alors vous savez, on a compté les mois et les années de manière extrêmement variable. Et il nous fallait savoir comment il fallait compter cela. Moi, j'ai rencontré des personnes qui s'intéressent à la prophétie et qui partaient sur des années de 365 jours. D'autres qui partaient sur des années de moins que 360 jours parce qu'ils faisaient des mois alternés de 29 et 30 jours comme ce fut le cas à une époque et en particulier comme le calendrier babylonien à une certaine époque était. Je crois qu'il nous faut être clair et quand vous avez ces deux versets côte à côte, le seul moyen de faire que 1260 jours correspondent à un temps des temps et la moitié d'un temps, eh bien c'est ce que nous avons ici. Un temps c'est une année, 360 jours, des temps c'est deux années, 720 jours, un demi-temps c'est une demi-année, 180 jours, ce qui vous fait un total de 1260 jours. Et tous les autres systèmes ne nous permettent pas d'arriver à cela. Donc vous voyez, le texte est clair et je crois qu'on ne peut pas passer à côté de cette chose-là. Alors j'avance maintenant et je vous le disais, Daniel envisage le jugement dans sa globalité et la prophétie ne lui révèle pas qu'il y aura deux phases au jugement, le jugement de la maison de Dieu et le jugement des réprouvés. La prophétie ne lui révèle pas qu'il y aura deux phases dans l'activité de la petite corne, une phase pendant le Moyen-Âge, une blessure mortelle, et une deuxième phase d'activité. Donc Daniel envisage cela de manière plus globale. Alors, reprenons ce texte de Daniel et regardons-le en détail. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, donc l'Empire romain, nous l'avons compris, le quatrième animal. Et dans un deuxième temps, dans la suite, en d'autres termes, quand l'Empire romain lui-même s'effondrera et qu'il donnera des sens à une kyrielle d'états plus petits symbolisés par ces dix cornes, c'est-à-dire le démembrement de l'Empire romain. Après cela, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Nous avons déjà vu ces choses-là. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, verset 25. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. J'aimerais vous faire observer que dans ce verset 25, il y a quatre propositions. Et regardez bien, parce que dans la disposition du texte, il y a un autre message. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il attaque le Très-Haut, Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il s'attaque au peuple de Dieu. Troisième proposition, il espérera changer les temps et la loi. C'est plutôt s'attaquer à Dieu que de changer sa loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et vous voyez que dans ces quatre propositions, il y a une attaque contre Dieu, une attaque contre le peuple de Dieu, puis une attaque contre Dieu, mais possiblement contre le peuple de Dieu, et la dernière est dirigée contre le peuple de Dieu. Si je mets cela en évidence, j'aimerais que vous observiez la chose suivante. Il y a ce qu'on pourrait appeler une inclusion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une inclusion ? Une inclusion, c'est un élément qui s'inclut dans le texte et qui, pour nous au moins, ne paraît pas avoir une grande utilité. Il est un peu comme un corps étranger. Ça n'est pas le cas ici, mais en l'occurrence, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Et quand cette inclusion est comprise entre deux textes qui rappellent la même idée. Alors cette idée-là, qui encercle l'inclusion, nous permet de comprendre quelle est la raison de cette inclusion. Je vais être plus concret avec un texte qui se trouve dans Apocalypse et qui a trait à Armageddon. Et vous allez comprendre cela. Je vous amène donc au chapitre 16 et je vous invite à regarder ce qui se passe au chapitre 16 à l'occasion de la sixième coupe. À partir du verset 12, donc le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Alors je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, notez bien, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et là, peut-être, vous ne voyez pas le lien entre le verset 14 et le verset 15. Et le verset 16 reprend l'idée du verset 14. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Pour vous permettre de mieux comprendre ce que j'ai à vous dire, ce que je veux vous dire, je vous propose de lire le verset 14 et le verset 16 à la suite, en sautant le verset 15. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Quand je vous lis les choses comme ça, est-ce qu'il vous semble qu'il manque quelque chose ? Non. Il y a des esprits impurs qui vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler. Verset 14. « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé Armageddon. » Il n'y a pas de manque, il n'y a pas un défaut dans la phrase. Simplement, il y a une inclusion du verset 15. Parce qu'on peut se poser la question, il les rassemble pourquoi ? Dans quel but ? Quel est l'objectif ? L'objectif ne nous est pas dit. Et quelque part, il nous est suggéré par l'inclusion. Alors si je vous lis maintenant l'inclusion en vous disant, mais l'objectif du rassemblement, on va le comprendre là avec le verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Est-ce que ça vous suggère quelque chose ? Et là on se rend compte que l'objet du rassemblement, c'est pour faire honte au peuple de Dieu. Et lui faire honte, en l'occurrence, c'est qu'il marche nu. C'est-à-dire qu'il n'ait plus cette couverture, qu'il n'ait plus ce vêtement blanc qui lui est accordé par la foi, comme ça nous est dit un petit peu plus loin au chapitre 19. Et vous voyez donc que l'objectif de ce rassemblement, c'est de faire tomber le peuple de Dieu. Donc vous voyez, l'inclusion va nous montrer comment et quel est le but de ce rassemblement, même si ça n'est pas dit en clair. Eh bien, j'aimerais que vous regardiez ce texte de Daniel 7,25 avec cette inclusion. Il opprimera les saints du Très-Haut, deuxième proposition. Quatrième proposition, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais comment ? Par quoi ? De quelle manière ? Et là, c'est l'inclusion qui va nous le dire. Il espérera changer les temps et la loi. C'est-à-dire que la persécution du peuple de Dieu va se faire à travers le changement du temps et de la loi. Et vous voyez que ce système, ce procédé littéraire, devrais-je dire, nous permet de lire quelque part un peu entre les lignes et de comprendre des choses qui ne sont pas forcément expliquées de manière tout à fait explicite. Alors, la loi de la petite corne. Notez que la persécution du peuple de Dieu se trouve de part et d'autre de la modification de la loi. C'est dire que la persécution portera sur un changement de loi. Et à ce titre-là, le texte de Daniel, tout en étant beaucoup plus court, nous dit la même chose que le texte de l'Apocalypse au chapitre 13, où il est question d'une loi, d'un décret, qui, le décret sur la loi, un décret de mort, si vous voulez, sur quiconque ne portera pas la marque de la bête. En l'occurrence, si on comprend ce qui se passe là, c'est un décret qui devrait pousser le peuple de Dieu, qui résistera, mais qui devrait pousser le peuple de Dieu à transgresser la loi. J'avance encore et j'aimerais vous montrer ceci. Dans les deux cas, c'est-à-dire dans le texte de Daniel et dans le texte de l'Apocalypse, nous avons tellement d'éléments semblables qu'on peut comprendre qu'il s'agit du même événement. Dans les deux cas, le peuple de Dieu est vaincu. Dans les deux cas, il y a une durée de 3 ans et demi. Dans les deux cas, c'est une loi qui opprime. Dans les deux cas, il y a la présence des 10 cornes. Quand vous voyez tous ces éléments de ressemblance, vous vous dites, là, là, nous sommes vraiment sur le même événement. Alors, quelle est cette modification de la loi? Elle porte sur le deuxième commandement, il a été supprimé. Pour arriver à 10, on a dédoublé le 10e, qui est sur la convoitise, et on l'a séparé entre la convoitise des biens du prochain et la convoitise du conjoint du prochain. Et puis, il y a le 4e commandement. Et là, le 4e commandement a été modifié. Et il a été modifié, vous savez comment, le jour du Seigneur, qui au départ est le sabbat, a été transformé en jour du Seigneur dimanche. L'expression jour du Seigneur est une expression qui est employée dans le livre d'Apocalypse. Et c'est l'apôtre Jean qui nous dit « Je fus ravi au jour du Seigneur ». C'est une expression qui est aussi employée dans le reste du Nouveau Testament. Mais elle est à double sens et on lui donne en général 2 sens distincts. Le jour du Seigneur, le jour du retour du Seigneur, le jour de gloire du Seigneur, et puis le jour du sabbat. Dans les textes de l'apôtre Paul, ou dans les textes, les autres textes du Nouveau Testament, c'est un génitif qui est employé, c'est-à-dire « emera tu curiou », le jour du Seigneur, littéralement. Et dans tous ces cas-là, le sens assez clair, c'est le jour du retour de Jésus. Mais dans l'Apocalypse, c'est différent. C'est Emera Kuriake. Alors si on voulait, c'est un adjectif et pas un génitif qui est employé. C'est-à-dire, c'est le jour seigneurial. Est-ce que c'est la même chose? Eh bien, je ne crois pas. Parce qu'en réalité, le jour seigneurial fait allusion, fait référence, fait écho, si vous voulez, à une chose qui existait à l'époque, et qui était le jour impérial. Et le jour impérial, c'était le jour où on adorait l'empereur. Et par conséquent, si le jour où on adorait l'empereur, et en l'occurrence c'était le dimanche, le jour seigneurial par opposition, évidemment, c'est le jour du samedi. Et quand l'apôtre Jean dit qu'il a été ravi en esprit au jour seigneurial, Emera Curiaque, alors à ce moment-là, il veut dire qu'il a été ravi en esprit un sabbat. Et donc vous voyez que suivant que l'on traduit jour du Seigneur ou jour seigneurial, eh bien on n'a pas le même sens. Alors effectivement, ça fait partie de ces nuances qu'il faut retrouver dans le texte, même si ça n'est pas parfois bien clair pour le lecteur qui n'a pas ces données-là. Je veux vous dire par là que nous avons besoin de connaître ces choses-là. Alors, sur le quatrième commandement, vous le savez, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. » Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Cette loi de la petite corne, en modifiant le jour du sabbat, a modifié d'un seul coup les temps et la loi. La loi, parce que la loi de Dieu a été changée, mais le temps, parce que c'est le temps de l'adoration qui a été changé. Alors me direz-vous, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Si de bonne foi on observe un jour plutôt que l'autre, est-ce que ça n'est pas la même chose? Je suis sûr que Dieu regarde au cœur et que beaucoup de personnes qui agissent sans connaissance de ce problème seront reconnues par le Seigneur. Mais je suis persuadé de notre côté que le problème, le sujet, viendra beaucoup plus que nous ne l'imaginons sur la place publique. Et le problème deviendra aigu. Et à ce moment-là, est-ce que ce sera important ou non, alors que le sujet sera débattu? J'aimerais vous donner une raison. Oh, bien sûr, on peut dire « c'est le Seigneur qui l'a donné, donc à nous d'y obéir ». Mais je crois qu'il y a plus que ça. Il nous est dit que le sabbat est un signe. Un signe de quoi? Un signe qu'on est de bons chrétiens? Non. C'est un signe auquel on connaîtra que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Voilà ce que nous dit le texte. Un signe auquel on connaîtra, un signe auquel vous connaîtrez, nous dit un autre texte, que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Mais quel lien avec cette importance du sabbat? Est-ce qu'on n'exagère pas quelque chose? Est-ce qu'on ne porte pas au pinacle un sujet qui n'aurait pas autant d'importance que cela? Je crois que c'est très important. Et je vais vous dire pourquoi je crois que c'est très important. Si le sabbat est un signe, il faut qu'il y ait un lien entre le signifiant, le signal, et la chose signifiée. Quel est ce lien? Quel est ce signe? Le signe du sabbat, c'est un signe de repos. C'est un signe par lequel on indique que l'on ne compte pas sur ses œuvres, mais qu'on compte sur les œuvres de l'Éternel. Et alors que le signe du sabbat est regardé par ceux qui ne l'observent pas comme un signe d'obéissance aveugle aux ordres de l'Éternel, ce qui est peut-être le cas parfois, et ça n'est pas critiquable quand même de ce côté-là, alors que finalement c'est le signe par excellence de la foi, de l'obéissance par la foi. Je vais essayer d'être un peu plus explicite. Quand je me repose le sabbat, je signifie par là que je ne compte pas sur mes œuvres pour me sanctifier. Le sabbat est un signe auquel on connaîtra que ce n'est pas vous qui vous sanctifiez, c'est moi qui vous sanctifie. Et vous voyez que le sabbat, sous cet angle-là, est l'expression la plus aboutie de la justification par la foi, de la sanctification par la foi. Alors, si on vous dit un jour et si l'on vous laisse entendre que vous êtes un observateur aveugle de la parole de Dieu, pensez qu'il y a un sens entre le signifiant et le signifié. Par là, chaque fois que vous observez le sabbat, vous dites, mais vous dites à tous ceux qui vous regardent et vous vous dites à vous-même, je ne compte pas sur moi pour me sanctifier, mais je compte sur Dieu pour me sanctifier. Et c'est là l'expression la plus ferme et la plus aboutie, non pas d'une obéissance aveugle, mais d'une confiance par la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ.